Bonjour à tous et bienvenue dans Rétro Taku, votre JT du rétro gaming. Ce mois-ci, au programme, un dossier avec une salle d'arcade qui vient d'ouvrir à Lille, elle s'appelle Akedo, un test avec Dr Robotnik, la rubrique console avec ce mois-ci la Dreamcast, et enfin le rétro dico avec le mot card. Mais on commence bien sûr tout de suite avec les news. Et on commence les news avec un fou furieux qui a décidé de battre un record sur Missile Command, ce jeu d'Atari sorti en 1980, où l'objectif est d'empêcher des missiles de détruire une ville. Le record était détenu jusqu'à présent par un Américain depuis 1982, et c'est un Suédois, Victor Sandberg, qui vient de pulvériser le record avec plus de 80 millions de points en pas moins de 56 heures de jeu. On continue les news en images, en attendant moi, je vais m'entraîner.
Capcom vient d'annoncer lors du Penny Arcade Expo la sortie prochaine d'un remake du mythique DuckTales sorti en 1989 sur la NES de Nintendo. Ils ont aussi confirmé le retour du Beat'em Up Donjons & Dragons Chronicles of Mystara en version HD. Ce jeu sera la compilation de deux titres arcade, Tower of Doom et Shadow over Mystara, sortis en 1993 et 1996 respectivement. Ces jeux seront disponibles durant l'été 2013 sur les plateformes de téléchargement des consoles nouvelle génération. Kickstarter est un site internet permettant le financement de projets par des fans. Dernièrement, c'est une cartouche Super Nintendo qui est proposée. Celle-ci contiendra 4 jeux amateurs, Mezman, U-Wall, Skip and Friends et N-Warp des Akusen. A noter que le projet étant déjà financé à hauteur de 10 500 $ et que l'argent en plus collecté permettra de proposer un cinquième jeu, Balloon Attack, mais pour cela ils devront collecter 16 500 $. Shenmue de Yu Suzuki, célèbre développeur ayant travaillé chez Sega, est une saga de 2 épisodes non terminés. La fin du 2e épisode a laissé de nombreux fans sur leur faim. La fin prématurée de la Dreamcast n'a pas arrangé les choses quant à la possible sortie d'un 3e épisode attendu comme le Messie. Dernièrement, Yu Suzuki lui-même a relancé la rumeur d'un possible financement d'un projet Shenmue par le biais de Kickstarter. Il faut maintenant attendre ce que font les fans depuis plus de 10 ans. Un père dévoué a proposé à sa fille une version bien originale de Donkey Kong, le jeu d'arcade des années 80. En effet, ce n'est plus Mario qui est le héros, mais sa fille. Le cher papa a reprogrammé le jeu lui-même pour changer les sprites, sa fille devenant l'héroïne de son propre Donkey Kong. A noter que cette anecdote a lancé une mode, changer les héros de nos vieux jeux vidéo. Par exemple, dans une nouvelle version du premier Zelda, c'est maintenant la princesse qui doit sauver Link. Dragon Quest est une fameuse série de RPG commencée en 1986 sur Famicom. Véritable carton au Japon, la série a connu une exportation sur les terres européennes qu'après 20 ans en 2006 avec l'épisode 8 sur PS2. Dernièrement, des amateurs ont utilisé un logiciel appelé RPG Maker pour faire un nouveau Dragon Quest. Cette version est au look Super Nintendo et est téléchargeable gratuitement sur le site officiel. King. Tyrannosaurus Tex est un FPS qui aurait dû sortir sur Game Boy Color en 2001, mais Eidos, qui devait l'éditer, a finalement retourné sa veste. Heureusement, une cartouche prototype a été récupérée et le programme du jeu en a été extrait. D'ailleurs, cette prouesse technique pour une telle console comme la Game Boy Color est téléchargeable gratuitement.
Ce mois-ci, dans le test, on part sur Mega Drive à la découverte du jeu Dr. Robotnik Min Bin Machine. Le nom est compliqué, mais c'est normal, c'est un puzzle game. On y va.
Sorti en 1992 sur Mega Drive, Dr. Robotnik Min Bin Machine est une adaptation du jeu Puyo Puyo sorti sur arcade et console au Japon. Ici, les Puyo, sortes de boules molles de toutes les couleurs, deviennent les Bin, traduisés par haricots. Les protagonistes du jeu sont issus du premier dessin animé Les Aventures de Sonic, sorti en 1993. Le peuple des Bin est envahi un jour par l'infâme Dr. Robotnik et ses sbires, Scratch, Grounder et Coconut. Ces derniers construisent alors une machine pour changer les paisibles Bin en robots. C'est donc à nous de libérer les Bin en affrontant les robots, puis leur chef, Robotnik, en personne. L'écran titre du jeu a une particularité, si on appuie sur une autre touche que Start, les lettres du mot Bin sautent. Dans le mode scénario, 4 difficultés sont disponibles. Easy, Normal, Hard et Hardest. Le but principal de ce mode est de passer tous les stages jusqu'à arriver au numéro 13 et de pulvériser la Min Bin Machine. Le mode de joueur permet de se battre contre un ami dans 5 niveaux de difficulté. Un handicap supplémentaire apparaîtra dès le niveau 4 avec l'ajout de lignes de Bean Robot avant le début du combat. Enfin, un mode exercice permet de s'adonner au solo jusqu'à ce que notre écran soit rempli. Le but principal du jeu est d'empiler les beans par couleur. Au début, il y a seulement 3 couleurs dans les premiers stages, puis 4, 5 et 6 au stage de fin. Pour les autres modes, l'augmentation des couleurs est elle aussi graduelle. Le principe de combo est le suivant. Si 4 beans sont associés, ils disparaissent. Si plus de 4 beans sont associés, un bean robot tombe chez l'adversaire par bean supplémentaire de notre côté. Si 2 groupes de 4 beans tombent successivement, 6 beans, soit une ligne, tomberont chez l'adversaire. Le point précédent marche aussi dans ce cas. Il n'y a pas de limite au nombre de bean robots pouvant tomber chez l'adversaire, les combos pouvant se multiplier indéfiniment. Passons rapidement sur les graphismes, puisque les décors de phase de jeu se résument à un mur de briques. Les deux autres décors disponibles sont l'intérieur de la salle où Robotnik a construit sa machine, et le dernier est le mont Mobius où Dr. Robotnik a installé son labo. Les musiques sont quant à elles sublimes. Les rythmes sont rapides pour coller avec l'esprit du jeu et pour se mettre dans l'ambiance avec un ton général robotisé. Je vous conseille d'écouter au moins une fois la musique du mode de joueur. En conclusion, un jeu qui a chamboulé la Mega Drive et un soft qui ne sera jamais has-been.
On aurait pu croire les salles d'arcade d'un autre temps. Que nenni ! Ce mot aussi est d'un autre temps. Eh bien non, pas du tout, les salles d'arcade continuent d'exister. C'est le cas à Lille, où une nouvelle salle vient d'ouvrir, elle s'appelle Akedo. On la découvre dans notre dossier du mois. En effet, Kevin et Benjamin, la vingtaine, ont décidé d'aller à contre-courant et de créer une salle d'arcade en 2013. Mais pourquoi ?
Une salle d'arcade parce que bon, j'ai connu l'arcade depuis que je suis vraiment gamin. J'étais juste traumatisé par Of the Dead le premier quand j'avais 9 ans je crois. Mais j'ai adoré le jeu et ça plus pas mal d'autres jeux qu'on jouait dans une salle d'arcade, La Tête dans les Nuages à Pontoise à l'époque. Après, quand j'avais 20 ans ou 6 ans de ça, j'ai monté ma première même cab, une borne d'arcade maison. Et j'ai fait l'achat de mon premier flipper, et un jour je me suis dit, essayons de lancer un truc plus gros, un vrai projet arcade. Comme je suis arrivé sur l'île il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, tiens, allez hop, on s'ouvre une salle d'arcade sur l'île.
Une salle d'arcade ne signifie pas forcément ancien jeu. Akedo propose des systèmes anciens, mais aussi récents.
On a des systèmes récents, donc ça va être des Taito Type X, avec le dernier Street Fighter 4 et King of Fighters 13. On va avoir des systèmes plus anciens avec Taito Genet, avec TVR Revision, MVS avec plusieurs jeux, MVS 6, et une Taito F3 avec Puzzle Bobble, et on aura du dédié avec Daytona USA 2 et une borne DDR.
Passion oblige, les consoles de jeux, y compris rétro, seront de la partie.
Alors un espace console, parce que j'ai une très grosse collection de rétro Nintendo, je suis un gros furieux de Nintendo, donc je propose toute ma ludothèque, donc des centaines de jeux Super Nintendo, Nintendo 64, et on a aussi du Next Gen, parce que il en faut pour tout le monde.
Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 22h la semaine et minuit le samedi, vous pourrez jouer à partir de 50 centimes et de nombreux événements sont d'ores et déjà prévus. Si vous n'êtes pas loin de Lille, vous savez où aller.
C'est voici, dans la rubrique console, on va parler de la Dreamcast, la dernière console de Sega. Moi, je vais pleurer.
La Dreamcast est une console 128 bits de Sega, sortie le 14 octobre 1999 en France. Elle est la première console de 6ème génération et la première à disposer d'un modem de série, ce qui permettra de jouer en ligne. Pratique plus que courante aujourd'hui, beaucoup moins à l'époque. Le jeu multijoueur en local n'est pas en reste grâce aux 4 ports en façade pouvant accueillir ces manettes volumineuses mais ergonomiques et confortables. Ce sont les premiers contrôleurs équipés de gâchettes analogiques et disposant de 2 ports pour les accessoires comme le kit de vibration ou le VMU, une carte mémoire équipée d'un mini-écran. 2 VMU peuvent même être branchés ensemble pour échanger des données. Plus surprenant, ces cartes pouvaient afficher des informations et astuces en pleine partie et permettaient même le lancement de mini-jeux. Pour faciliter le développement de jeux, la Dreamcast est capable de lancer une version spéciale de Windows CE et donc d'avoir des portages de jeux Microsoft. On peut d'ailleurs noter les nombreuses ressemblances entre la console de Sega et la première Xbox. La Dreamcast est la seule à utiliser le GD-ROM, disque pouvant contenir plus de données qu'un CD classique et d'une capacité totale de 1,2 gigaoctets. Cette augmentation de capacité est la cause de temps de chargement plus long et d'une plus grande difficulté à lire les jeux avec le temps. La Dreamcast propose en son catalogue de jeux beaucoup de jeux arcade comme Soul Calibur, Street Fighter 3 ou House of the Dead 2. On pourra également citer des exclusivités comme Sonic Adventure, Power Stone, Crazy Taxi, Space Channel 5 et bien sûr Shenmue.
Côté accessoires, quelques bonnes surprises, comme les maracas pour le jeu Samba des Amigo, la canne à pêche pour Sega Bass Fishing, ou encore le Densha de Go contrôleur permettant de jouer à une simulation de conduite de train. Le 31 janvier 2001, Sega stoppe la production de la Dreamcast hors du Japon, mais la communauté des fans continue de sortir des titres, encore aujourd'hui.
Carte bleue, non. Carte vitale, non plus. Carte de fidélité, c'est pas ça. Ah, ça y est! Card Game! Ben oui, c'est de ça dont on parle dans le Rétro Dico tout de suite.
J'imagine que vous connaissez les disquettes, les cartouches et les CD-ROM, des supports de jeux ultra répandus. Mais saviez-vous que des constructeurs ont sorti dans les années 80 un support très compact de la taille d'une carte de crédit? Ces cartes de jeu à l'électronique miniaturisée ont connu des noms différents suivant les fabricants. Le concept est utilisé pour la première fois sur la Sega SG-1000 sous le nom de Sega My Card, repris plus tard sur la Master System en tant que Sega Card. Bitcorp produira son propre format pour sa console portable Gamate. Hudson Soft produira la B-Card pour les ordinateurs MSX et Atari Portfolio, ainsi que la célèbre U-Card développée pour la PC Engine. Malgré l'intérêt de sa petite taille, ce support était coûteux et avait une faible capacité de stockage. Le format disparaîtra avec l'arrêt de la PC Engine. Dommage, c'était quand même super pratique à ranger.
Et voilà, je sais que vous êtes triste, mais c'est déjà la fin de Rétro Taku, votre JT du rétro gaming. N'hésitez pas à nous contacter par mail jt@retrotaku.com ou sur la page Facebook de Rétro Taku pour nous faire part d'une actualité qui vous concerne. N'hésitez pas non plus à découvrir l'ensemble de l'actualité rétro gaming, c'est sur retrotaku.com. Moi je vous dis au mois prochain. Ciao !